musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Nouvel album pour la chanteuse Émilie Loiseau, Mona, un album au texte imaginaire et fantastique, mais ancré dans sa vie familiale. Bonjour Émilie Loiseau.
Bonjour.
Mona.
L'album Mona est le dérivé d'une pièce de théâtre que tu as écrit mêlant deux récits. Peux-tu nous raconter ces deux histoires ?
Oui, la première histoire est l'histoire de Mona, cet enfant qui naît déjà vieux, qui naît à 73 ans, qui naît déjà blasé de la vie, assez punk, en déséquilibre, désaxé, et puis sa mère raconte ça comme un journal de bord. Elle raconte cette histoire, mais on ne sait trop si elle est vraie, fantasmée, si c'est un cauchemar. Mais en tous les cas, elle la raconte. Et puis cet enfant est diagnostiqué psychotique et donc elle va le projeter comme ça dans l'univers des hôpitaux psychiatriques. Puis cette petite vie rapidement devient un naufrage. Elle finit par boire de plus en plus d'eau et par se noyer de l'intérieur. Voilà, c'est le naufrage d'une vie en déséquilibre.
Et ça s'appelle la potomanie.
La potomanie, oui, voilà, c'est une pathologie en l'occurrence. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était l'idée du naufrage intérieur et de ces vies en déséquilibre psychique qui ont tant de mal à trouver un axe pour un équilibre pour pouvoir être dans ce monde.
On peut dire la perte de soi-même, pratiquement.
Oui, et l'incapacité que notre société a à accueillir cela. Ce sont souvent des gens qui ont besoin d'être dans la vie.
Mm-hmm.
L'hôpital psychiatrique n'est pas un lieu de vie en soi. C'est un lieu qui cherche à baliser, à aider, qui est souvent très démuni par un manque de moyens. Et mettre dans la vie des gens qui sont dans ce désaxage, ce déséquilibre, quelque chose de très complexe aujourd'hui parce que la société n'est pas armée pour cela et je crois que c'est encore très tabou. J'ai vécu ça au travers de ma maman et c'est quelque chose dont je parle ici de manière, alors ça paraît très noir, j'en parle ici de manière dans cette pièce, c'est vraiment une fable, j'ai imaginé ce bébé qui naît très vieux. Comme pour pouvoir parler de ça sur un terrain beaucoup plus ludique, mmh. grotesque, absurde, assez comme une espèce d'Alice au pays des merveilles, mais de l'autre côté, quoi, le lapin traverserait le miroir dans l'autre sens et découvrirait un monde qui lui paraîtrait bien absurde. Donc c'est traité avec plus d'humour et une forme de joie. C'est quelque chose, une histoire qui cherche la lumière, qui cherche à faire de cette fracture quelque chose de joyeux et de cathartique. Et puis, cette autre histoire, donc, est l'histoire d'un marin de la Navy. C'est un autre naufrage. C'est un peu une métaphore de ce naufrage intérieur. Un bateau de la Navy, pendant la Deuxième Guerre mondiale, coulé au large de la Crète par les Allemands. Sur ce bateau, il y a un marin, 25 ans, embarqué là pour défendre son pays et l'Europe contre la barbarie nazie et qui s'apprête à donner la vie à un enfant et écrit à sa femme des lettres d'espoir, des lettres de lumière, des lettres qui lui parle de la mer, puis de sa noyade, et qui survit à ce naufrage. Voilà, et ces deux naufrages sont un petit peu sont en résonance l'un avec l'autre.
La première histoire, on l'a bien compris, fait écho à l'histoire de ta mère et l'autre à de ton grand-père maternel.
Oui, voilà, c'est mon grand-père était embarqué sur ce bateau et a survécu à ce naufrage. Sa femme s'apprêtait à donner la vie à ma maman, donc j'ai effectivement longtemps et souvent mes six histoires en résonance comme une question, comme est-ce que un événement qui traumatise une guerre par l'empreinte qu'il laisse dans l'intimité d'un être qu'il a subi, est-ce que cette empreinte comme un galet qui laisse des ondes sur l'eau, laisse elle aussi des empreintes altérées, différées, mais toujours présentes sur l'intimité des êtres et des générations qui suivent. C'est une question que je me pose à moi-même, de manière poétique et métaphorique, au travers de l'eau, au travers du thème de l'eau, au travers du thème de la noyade. Et je trouve d'ailleurs que c'est une histoire que c'est une question qu'on serait vraiment en droit de se poser, peut-être même on aurait le devoir de se poser aujourd'hui, on va dire, parce que ces migrants qui s'échouent sur nos plages, ces gens qui s'embarquent sur des bateaux de fortune, et nous qui ne faisons pas grand-chose, en tous les cas rien à la hauteur, ces enfants qui vivent ça dans leur chair, quels adultes vont-ils devenir plus tard et quelle fracture est-ce qu'on laisse aux générations futures? Je crois qu'on a besoin d'un geste historique aujourd'hui qui préserve notre monde de cela et qui sauve des vies envers et contre tout et qui ensuite s'attarde sur comment on va faire pour loger ces gens, pour s'occuper d'eux, pour les protéger. Mais d'abord, il faut sauver, je crois. Voilà. Donc c'est une question que je trouve
pertinente et d'actualité.
Qui finit par avoir beaucoup de résonance pour moi en ce moment, oui. Mais qui est partie d'une question intime, voilà.
Des histoires, tout à l'heure tu nous as parlé de médecins, on peut retrouver cette histoire dans Docteur G, un titre un peu plus joyeux tout de même, non?
Oui, mais encore une fois, j'aime faire de choses terribles, quelque chose d'absolument drôle et jouissif. Docteur G, c'est ce médecin qui un jour me voyant désespéré face à l'état de désespoir de ma maman et de cette absolue non-solution que je vivais depuis des années, à travers sa maladie, m'a vu un peu craquer et m'a dit, une fois que j'étais calmée, pendant un instant, j'ai bien cru voir votre maman, hein, parce que les chiens ne font pas des chats, hein, quelque chose de cet ordre en tout cas.
Oui, les médecins, ils ne prennent pas de gants souvent.
Non, pas tous.
On est bien d'accord. Oui.
J'ai aussi rencontré des médecins absolument formidables et qui nous ont justement permis de sortir la tête de l'eau. Mais celui-là, je dois dire que je lui voue un amour particulier. Et en tous les cas, une chanson qui m'a beaucoup amusée, parce que je me suis imaginée, alors si les chiens ne sont pas des chats, comment se fait-il que les petits puissent parfois être des rats? Et j'ai développé ce bestiaire en riant beaucoup. Et donc finalement, ça avait peut-être une valeur positive. Je crois qu'il faut faire de nos fractures des valeurs positives si on veut faire de ce monde quelque chose de meilleur.
On est bien d'accord. Tu parles aussi des méandres téléphoniques dans cet album, avec aussi les médecins, la MDPH par exemple.
Oui. Les boîtes vocales, hein, qu'elles soient... finalement, d'ailleurs, elles sont plus propres aux cliniques privées qu'aux cliniques. Ces boîtes vocales sans fin qui nous amènent d'un numéro à l'autre, mais je crois que c'est valable. Enfin, j'ai imaginé ça en l'occurrence pour dans les cliniques et les hôpitaux, mais c'est tellement valable pour tout dans la vie. C'est ça que ce disque parle. Se sert de cette histoire intime pour aller parler de choses. Quand je dis Mona, I see the world upside down, il y a des choses étranges ici qui me semblent tragiques. Je parle de beaucoup de choses en fait. Je parle effectivement de cette histoire, mais c'est aussi une manière de dire quelque chose que je ressens par rapport à l'état du monde actuel. Là c'est pareil pour le téléphone. Cette manière absolument déshumanisée que les boîtes vocales ont de nous accueillir et de nous renvoyer vers des chiffres infinis, ça en est très drôle. Et
taper 1, taper 2, taper 3, revenir au sommaire.
Voilà, c'est ça. Donc, j'ai écrit Who is on the phone pour cela.
On l'a bien compris, des textes plutôt durs, mais de la musique plutôt joyeuse. C'est un contresens, on peut dire ça comme ça.
C'est la face A, la face B, c'est-à-dire que les textes cherchent aussi la lumière, la joie. Mais effectivement, ils traitent de sujets d'une certaine profondeur et d'une certaine noirceur. Mais oui, la musique a ça d'incroyable qu'elle peut irradier les choses les plus noires d'une lumière considérable, quoi. C'est ce que j'ai essayé de faire.
Peux-tu nous présenter les musiciens qui t'accompagnent sur scène?
Bien sûr. Alors, il y a donc Olivier Cundino, mon violoncelliste, qui a fait toutes les orchestrations de ce disque et du concert. Il y a Tchaba Palotai, mon guitariste, qui a participé à ce disque aussi. Il y a mis sa patte électroacoustique, ce son qui ne ressemble qu'à lui. Et puis, il y a les nouveaux venus, qui sont Emmanuel Marais à la batterie, Clément Horry au violon et au tuba et au flugabon. Et puis... Sophie Bernado qui joue du basson, qui chante et scratch merveilleusement et qui joue également du clavier au spectacle.
On l'a bien compris, Mona, l'album est tiré d'une pièce de théâtre. Une adaptation en livre ou au cinéma, c'est une envie pour toi ou pas du tout?
Je n'y ai pas du tout pensé. Oui. Un livre, oui, Ça devait être un livre au départ, ça devait être une nouvelle. C'est devenu une pièce. Est-ce que je vais poursuivre cette dimension du livre? J'aimerais bien, il faut que je trouve le temps de ça. On verra. Et puis voilà, un film, je ne sais pas. Déjà, c'est une pièce. Pour l'instant, on tourne le concert. Là, c'est vraiment la forme concert qu'on tourne pendant un an et demi. Mais la pièce va rejouer à partir de septembre 2017, à Paris et ailleurs.
Cette création, ça me fait penser un petit peu à Mathias Malzieu, dans les concepts un petit peu, non?
Ah oui, tu dis ça aussi parce qu'il a écrit ces gentilles petites phrases de biographie qui accompagnent, je crois, mon disque.
Non, pas du tout, non, c'est vraiment en écoutant l'album et en suivant un petit peu ton actualité.
Non, mais c'est sûr qu'on est dans une démarche, je crois qu'on a quelque chose en commun, un terreau en commun de l'utilisation du champ lexical, du conte, de la fable, de la dimension onirique.
Que ce soit dans les textes et dans la musique, oui.
Voilà. Et puis je crois que, oui, il aime, comme moi, et il le fait depuis un moment, aller plus loin que l'écriture d'un disque, greffer une histoire. Voilà, je c'est sûr. Et puis voilà, il a fait ce film génial. Donc il aime les transversales, il aime essayer des choses, se mettre en danger, ne pas en rester à ce qu'il pense savoir faire. Et c'est quelque chose effectivement qui me caractérise aussi.
Pour toi aussi, la musique, c'est se mettre aussi en danger, essayer de nouvelles choses.
Pour moi, c'est ça avant tout, c'est chercher, c'est chercher toute sa vie, chercher. Et dans cette quête, dans cette recherche, si on progresse, si on avance, si on s'améliore, si on approfondit et qu'on affine, alors c'est formidable. En tous les cas, c'est ce qu'on cherche. Et puis, c'est essayer des nouvelles choses, c'est faire prendre du plaisir. Et ça, je crois qu'il n'y a que dans la mise en danger de la chose nouvelle qu'on peut retrouver la joie galvanisante qu'on a au début quand on écoute
les
premières chansons. Ouais.
On te retrouve au Francofolie, ça sera le 17 juillet et aussi sur internet emilieloiseau.fr. Merci Emilie.
Merci à toi. Dr. G said to me, for a sec I thought you were she. If you don't look out, Miss E, that is sure what you will be. Cause my dear, you can't control, it's not your fault, you have a hole.
On se retrouve dès lundi dans Je vous dis pas, on vous parlera d'une rencontre débat qui aura lieu le mercredi 20 juillet à 20h30 à la salle numéro 3 de la Citadelle. Un autre regard sur la Grande Guerre, un il est tombé pour la France, chronique d'un poilu ordinaire. On en parle plus en détail avec Pascal Cariou et Jean-François Henry. À lundi, bon week-end, bye bye.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale. Retrouvez toutes les émissions sur neptunefm.com.